Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui se consacrera ce soir au fil de deux ouvrages récents de l'africanologue et archéologue Jean-Loïc Lekellec à ce qu'il nomme lui-même l'archéologie romantique, une discipline non euclidienne qui fait son miel des géants bibliques, des pistes mystérieuses de Nazca, de l'Atlantide, de l'épave de l'Arche de Noé, de l'emplacement du Jardin d'Éden. Un mauvais genre que nous conclurons avec une série de chroniques signées Éric Henriet et Jean-Luc Rivera. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre consacré, comme vous l'aurez noté ce soir, aux sciences maudites et aux déductions incertaines autour de la table, bien évidemment, pour en parler, les chefs de l'hypothèse, les maîtres des théories en vogue, Éric Henriet.
Mais oui.
Bonsoir, je le salue, tout va bien Éric Henriet? Quelle est votre actualité intellectuelle, j'entends? Publication, article, colloque?
En ce moment, plutôt...
Un homme pressé et actif?
Non, plutôt des lectures, le recueil de données, en vue d'autres projets qui ne sont pas encore totalement aboutis.
Lié à l'Uchronie?
Lié à l'Uchronie, bien sûr. Oui. Plus on vieillit, plus on se spécialise.
Voilà. Donc avec vous, on va bien évidemment parler de Jean-Loïc Lekellec, mais également de toute une série imposante d'ouvrages que vous avez face à vous et que vous allez nous chroniquer. J'en prends un au hasard, 1940, et si la France avait continué la guerre, paru chez Talandier. Tiens, c'est un hasard, ça.
En plein d'actualité, puisque effectivement, cet appel du 18 juin et cet anniversaire, c'est un livre qui tombe à pic.
Tout à fait. France Culture, jeudi dernier, a montré La Voix. Je salue Jean-Luc Rivera.
Bonsoir.
Bonsoir. Quelle actualité, Jean-Luc Rivera?
Oh, beaucoup d'actualité.
Comme toujours.
Parce que la Gazette 5 va sortir.
Non,
et là, ça n'est
non.
plus une...
Ça attention, vous l'avez dit.
Oui,
le monde entier.
Je le dis et je le maintiens. Et puis aussi un nouvel ouvrage de Bernard Velmans, c'est une biographie du grand contacté américain Adamski. Donc beaucoup d'actualités là dans les quelques jours à venir, semaines plus exactement.
Mois de juin, juillet.
Plutôt juillet,
très
oui.
Bien. Ben, tout cela, nous en parlerons bien évidemment à la rentrée. Tout ce que vous venez d'énoncer comme titre va tout à fait dans le sens des publications de notre sujet et invité, entre guillemets, de ce soir, Jean-Loïc Lekellec, qui n'est pas un inconnu pour Michel Meurger, que je salue. Bonsoir Michel.
Bonsoir, pas du tout. Moi, je le suis depuis très longtemps.
Ah, et non, dites pas ça, ça fait service secret.
Ah oui, mais enfin, c'est toujours, au fond, ce qu'on fait, c'est toujours un peu de l'enquête. Lui en fait aussi des enquêtes, mais pas policières, des enquêtes archéologiques, des enquêtes préhistoriennes, des enquêtes dans le domaine du fantastique et des mondes perdus. C'est quelqu'un qui est tellement passionnant qu'on ne peut que s'intéresser à ce qu'il publie dans différents genres et différents domaines.
Très bien, c'est ce qu'on va faire ce soir dans Mauvais genre avec ce livre intitulé Les Martiens au Sahara. L'occasion pour nous de réécouter un extrait de ce film de Tim Burton, Mars Attaque. Voilà un extrait de la BO de Mars Attaque de Tim Burton pour lancer le débat ce soir autour des livres de Jean-Loïc Lekellec. Mais qui est-il et quel est cet homme qui nous interpelle avec deux livres que je cite, que je n'ai pas encore fait, « Des Martiens au Sahara, chronique au pluriel d'archéologie romantique » paru chez Actes Sud Errance dans la collection Histoire. Et puis tout récemment, chez Errance uniquement, Jean-Loïc Lekellec, « La Dame Blanche et l'Atlantide, enquête sur un mythe archéologique ». Michel Meurger, vous avez la parole. Qui est donc le mystérieux docteur Lekellec?
Jean-Loïc Lekellec, il a de multiples cordes à son arc, à son arc musical, car l'on a affaire à un musicologue. Et c'est aussi un préhistorien qui est spécialiste de l'art rupestre du Sahara, qui est linguiste et à ce titre auteur d'un dictionnaire des noms de lieux de Vendée. C'est aussi un folkloriste dont les recherches sont centrées sur l'ouest de la France, donc principalement la Vendée. Et alors, parmi ses nombreuses publications, on peut retenir « Art rupestre et mythologie en Afrique », qui est paru en 2004, qui est un livre extraordinaire, qui nous intéresse aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan culturel. Il y a aussi « La Vendée légendaire et mythologique » de 1996, qui est intégrée dans une préparation qui est celle de l'Atlas de la France mythologique, qui est une œuvre monumentale, comme son titre l'indique d'ailleurs, préparée par la Société de mythologie française, où le Kellec est membre du comité directeur. Il a aussi coédité « Chamanisme et art préhistorique » de 2006, qui est en fait une sorte de réponse à un débat qui a eu lieu après la publication par Jean Cotte de son grand livre sur le chamanisme, chamanisme et art préhistorique. Donc il y a eu toute une discussion dans le domaine scientifique. Il y a eu un colloque qui a parlé de cette thèse sur le chamanisme et l'art préhistorique. Et donc le Kellec a coédité cet ouvrage de discussion sur cette question. Y a-t-il eu un chamanisme préhistorique ? Donc vous voyez de multiples champs d'intervention, mais qui, à mon avis, sont tout de même liés à un intérêt pour les arts visuels. C'est un pariétaliste, c'est quelqu'un qui travaille donc essentiellement sur des fresques et des fresques en Afrique. Donc, ses ouvrages s'intéressent à quelque chose qui reviendra surtout dans notre conversation, c'est-à-dire la question, au fond, de la réception. C'est-à-dire que Jean-Luc Le Kellec s'est rendu compte qu'il y a un énorme eurocentrisme qui, finalement, crée un écran entre nous et ces arts, et que donc, on a tendance à projeter sur ces arts nos préconceptions. Il y a des choses amusantes dans ces livres. Nous avons tendance à voir des licornes, nous avons tendance à voir des sirènes sur des panneaux où, justement, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, finalement, je pense que Le Kellec, qui est loin d'être un relativiste, c'est quelqu'un qui, à mon avis, essaie de nous faire comprendre la nécessité de beaucoup de prudence face à l'altérité. C'est-à-dire qu'il faut prudence et respect, et en même temps, je dois dire que c'est une belle plume. C'est quelqu'un qui est aussi extrêmement convaincant au niveau d'une approche à la fois nourrie et quelquefois un peu polémique. Ça en reviendra là-dessus, je pense, avec Jean-Luc Rivière.
Alors, pour compléter ce portrait déjà très fouillé, signalons qu'il est également directeur de recherche au CNRS, qu'il travaille à Johannesburg, et puis qu'il prépare avec Bernard Sergent un dictionnaire de la mythologie pour les éditions Verdier. Jean-Luc Rivera, quelques éléments pour compléter cette approche de Jean-Loïc Le Kellec, qui est au cœur de notre émission ce soir, Un mauvais genre.
Jean-Luc Le Kellec, comme l'a souligné Michel Murger, s'intéresse à beaucoup de choses, et ça se voit, parce qu'on apprécie aussi la manière dont il relie au niveau de l'interprétation chez certains scientifiques et surtout chez beaucoup de pseudo-scientifiques, tout ce qui est littérature, et en particulier, donc, il s'étend beaucoup sur tous les romans de ce qu'on appelle les races perdues et les mondes perdus. Et comment il y a cette interaction entre littérature et science qui se nourrissent mutuellement. Et ça fait partie des aspects tout à fait passionnants de son livre.
Alors, Michel Murger, vous avez évoqué une société française de mythologie, une société mythologique française. Oui. On peut en savoir un peu plus, puisqu'il en est membre du comité directeur.
Oui, c'est Bernard Sergent qui dirige cette société, qui a été fondée par Henri Dontenville, qui est quelqu'un qui travaillait beaucoup sur les mythes, avec l'idée qu'en fait, on retrouve dans des textes littéraires des personnages comme par exemple Gargantua, qui selon lui étaient des personnages qui avaient un arrière-fond beaucoup plus ancien. Et effectivement, on trouve des textes plus anciens sur Gargantua que les ouvrages de Rabelais. On le retrouve aussi dans le folklore. Donc pour eux, il y a effectivement toute une sorte de mythologie à découvrir, alors assez difficilement, parce que souvent cette mythologie a laissé peu de traces. Mais il y a aussi à côté de ses préoccupations, un grand intérêt de collecte des légendes, des traditions. Ce sont des gens qui, depuis effectivement très longtemps, travaillent dans ce domaine et ont une revue qui s'appelle le Bulletin de mythologie française, qui est très nourri. On trouve des articles souvent très intéressants sur ces sujets. Alors, ils ne sont pas très connus parce que ce sont des gens qui restent volontairement discrets, qui font au fond un travail, moi je dirais, de collecte un peu comme de façon un peu comme des fourmis. C'est-à-dire que ce sont des gens qui accumulent, qui ont une certaine distance face au sensationnalisme et qui sont intéressants. Je dois dire que dans d'autres domaines aussi, On comprend très bien les connexions entre les différents centres d'intérêt de Jean-Luc Lequellec. C'est-à-dire qu'en fait, il adoptera la même approche sur des légendes vendéennes et sur des interprétations de mythes africains qui consistent finalement à avoir une distance sympathique par rapport à ces mythes et ces légendes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de projeter une fois de plus des préconceptions, mais au contraire d'essayer de les comprendre dans leur contexte socioculturel, dans leur historité. Et donc, c'est effectivement quelqu'un qui développe un type de recherche qui est beaucoup plus connu à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une approche discrète, mais à mon avis assez efficace sur ce type de démarche.
Éric Henrier.
Je crois que la remarque que vient de faire Michel à propos des recherches anglo-saxonnes est tout à fait à propos. Moi, ce qui me marque chez Lequellec, c'est ce que Michel vient d'expliquer, c'est sa distanciation avec l'uniformitarisme. Il refuse d'appliquer, je dirais, les modes de pensée, les principes ou les préconçus d'aujourd'hui à ce qui s'est passé à l'époque préhistorique. Ce qui est pourtant souvent ce qui dirige nos recherches ou en tout cas nos tentatives d'interprétation. Et il est, je dirais, plus que le scientifique, le savant comme on les aime, c'est-à-dire celui qui démontre, en tout cas sur certaines parties de ses centres d'intérêt, qu'il est vraiment un expert. On pense au Sahara, Michel vient de parler de tout ce qui est rupestre, et qui néanmoins a un grand éclectisme dans ses approches. Et là où je rejoins encore, et c'est pour ça que ça m'a plu de vous entendre dire ça, Michel, je trouve que dans son écriture, si vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a effectivement cette approche qu'on voit depuis quelques années chez certains historiens ou chercheurs anglo-saxons, cette volonté de rendre vivant l'essai, pas romanesque totalement, il ne s'amuse pas à ça, mais de le rendre vivant, de le rendre accessible à un lectorat divers, qui n'est quand même pas un exercice facile, parce qu'on est quand même sur des sujets très ardus, des sujets denses, et pourtant ça se lit vraiment très bien, ça se dévore même, pour parler clairement.
Alors, Jean-Luc Lequellec, également auteur, animateur d'un site, Éric Henrier, vous êtes allé voir sur les pierres et les rêveries autour des pierres.
Oui, mais d'ailleurs, ce site internet dont le lien est en train de bouger résume exactement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que on y voit, il y a une courte biographie, on y voit ses centres d'intérêt, mais surtout on y voit tous ses hobbies. Ouais. Et Dieu sait qu'il y en a. Et vous parliez de pierres, Michel parlait de peinture rupestre, peinture sur des murs, sur des grottes, sur des pierres. Mais effectivement, on sent cet amoureux du désert, celui qui a arpenté, cette poésie à la pierre, qui ressort un petit dans l'ouvrage. On va peut-être y revenir.
Très souvent. Michel Berger, pour conclure sur le portrait de
notre auteur de ce soir. Je crois qu'aujourd'hui, un préhistorien se trouve posé devant des questions fondamentales qui sont loin de concerner uniquement la préhistoire, quand on voit le bouleversement de la discipline. Aujourd'hui, au niveau de la multiplication des préhominiens, les questions sur un pré-langage, les découvertes effectivement des temples en Turquie qui ont l'air de montrer qu'effectivement, avant les villes, on a construit ce type d'édifice. Donc finalement, je crois que le rôle de Lequellec consiste à lui, le scientifique, a engagé un dialogue démocratique avec le grand public en refusant effectivement de s'enfermer dans une tour d'ivoire, en considérant que tous ces problèmes concernent au premier chef l'ensemble de la population et qu'il ne s'agit absolument pas du tout de se replier dans une discipline d'initié, mais qu'au contraire, sa discipline, effectivement, la préhistoire, va se trouver au centre de nos préoccupations pour aujourd'hui et pour demain.
Merci messieurs. Oui, dernier mot d'Éric Henrier. Tout petit mot, on passe au livre maintenant.
Mais j'ajouterais que, à mon avis, un certain nombre de concepts de la préhistoire vont voler en éclats dans les années qui viennent avec le réchauffement de la planète. On le voit déjà, c'est-à-dire que certaines parties couvertes sous la glace, sur les montagnes à Sibérie, ne vont plus l'être. On trouve déjà des mammouths en décomposition, mais à mon avis, on va finir par trouver d'autres objets qui vont
peut-être vous dire que le secret de l'Atlantide.
Michel parlait des préhominidés, mais on a fait des découvertes ces dernières années en Amérique du Sud également, qui remettent la colonisation de l'Amérique en question par rapport à ces dogmes habituels. Donc,
très bien, mais voilà les pistes ouvertes. En tout cas, voilà dressé le portrait de l'auteur qui est au cœur de notre émission de ce soir, Jean-Noël Lequellec. On va maintenant s'intéresser aux deux ouvrages que nous avons choisis, mais avant cela, de nouveau, Le Mars Attaque de Tim Burton. Un extrait de la BO de Mars Attaque de Tim Burton pour illustrer le mauvais genre de ce soir. Alors commençons avec ce livre de Jean-Loïc Lekelec, Des Martiens au Sahara, chronique au pluriel d'archéologie romantique chez Actes Sud Errance. Le projet en est situé dans l'ouverture, en introduction bien évidemment, je cite « Pourquoi s'intéresser aux innombrables histoires de ce genre ?» Voir quelles histoires. Parce que les thèses fondamentalistes et créationnistes ne peuvent séduire que des personnes mal informées, et parce que l'archéologie fantasque ou romantique ou alternative ou pseudo-archéologie véhicule souvent des idées racistes en recyclant éternellement les mêmes billevesées. La mauvaise archéologie peut faire sourire, elle n'en est pas moins potentiellement dangereuse, ainsi que le montreront plusieurs cas décortiqués dans ce livre. De plus, elle bénéficie parfois de considérables appuis financiers, politiques et religieux. Donc il y a à la fois dans ce livre trois aspects. D'abord une fascination certaine de Lekelec pour tout cet univers imaginaire, fantasmatique et pour dire poétique autour des déserts, des civilisations oubliées, des traces, de la pierre, qu'elle soit tatouée ou non. Premier élément. Deuxièmement, le sérieux scientifique qui veut dire que pour lui, archéologue, africanologue, paléontologue est un métier qu'on exerce, qu'il y a une formation et qu'on ne peut pas être en même temps, et que le fait d'être un grand physicien ne permet pas d'être en même temps un grand archéologue, que les disciplines sont quand même cloisonnées. Donc il y a la défense du sérieux et d'une espèce de rigueur scientifique dans l'approche de tous ces phénomènes. Et puis troisièmement, un combat idéologique contre la renaissance de certaines idéologies, de certains miasmes philosophiques ou théologiques tout au travers de ces pseudo-archéologies. Donc Des Martiens au Sahara, qui se compose, il faut d'abord le préciser d'emblée, par, on peut le dire, 30 petits dossiers qui sont des dossiers construits autour de reliques, autour de traces, autour d'éléments archéologiques qui sont soit inventés, soit falsifiés, soit mal lus, Michel Meurgère.
Ben, là, il y a quand même, encore une fois de plus, sa préoccupation par rapport aux arts visuels. Parce que quand on regarde en détail ces dossiers, on se rend compte qu'il y a un grand nombre de ces dossiers qui concernent l'interprétation abusive ou profane d'images, par exemple les martiens du Tassili, les pierres à dinosaures d'Ica, les pseudo-mammouths des terres de l'Iowa, les faux tricératops des gravures de Vaisupa dans l'Utah. J'ai l'impression que là, quelque part, Lekelec s'attaque à quelque chose de fondamental, à savoir le rapport entre image et imaginaire et l'abus en fait, des images. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes absolument inondés d'images, souvent sans commentaires ou avec des codes qui sont discutables. Et finalement, lui, se fait un archéologue de ces images. Il les démonte, il essaie de comprendre leur sens et leur contexte de production et souvent montre qu'il y a une sorte de court-circuit entre l'interprétation et les intentions des gens qui les ont produits. Ça me paraît très important parce que ça ne se limite pas à l'archéologie ni à la préhistoire. C'est quelque chose qui peut être déployé dans beaucoup d'autres domaines, notamment l'histoire de l'art, l'histoire des idées. Moi, quelque chose qui m'a frappé, ça rejoignait une enquête que j'avais faite en Autriche à propos de quelque chose que vous voyez dans tous les textes de paléontologie, à savoir la première reconstitution paléontologique se trouve à Klagenfurt, une petite ville de Carinthie, où effectivement trône sur la grande place Lafontaine un beau dragon. Et donc, au début du 19e, un botaniste est venu à mesurer la tête du dragon, a regardé la forme et a trouvé que cette tête correspondait de façon tout à fait évidente à un crâne de rhinocéros préhistorique, de rhinocéros laineux qui se trouvait à l'hôtel de ville. Manque de chance, je refais l'enquête et vu que effectivement, alors que le dragon avait été façonné au XVIe siècle, le crâne n'était entré à l'hôtel de ville qu'au XVIIIe siècle. Donc vous voyez finalement quelque chose qui se retrouve dans tous les textes encore aujourd'hui, dans les textes, y compris les textes américains, sur l'histoire de la paléontologie. En fait, quand on fait une enquête précise, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, où quelquefois ce sont des faux, quelquefois ce sont des choses qui ne correspondent pas. Donc je pense qu'effectivement, il faut manifester beaucoup de sérieux, parce que souvent on vit sur de fausses certitudes qui peuvent effectivement, comme le remarque Jean-Élie Lekelec, être récupérées par des groupes, par des fantaisistes, des gens avec plus ou moins de bonnes intentions. Et je crois qu'effectivement, là encore, il nous incite à plus de sérieux, aller voir les textes, à se référer aux spécialistes, à ne pas se laisser complètement tromper par le sensationnel, finalement.
Alors, Jean-Luc Rivera, on vient d'entendre Michel Meurgère, mais il y a pas mal de personnes qu'on aime bien, un mauvais genre, qui en prennent pour leur grade, si j'ose dire. Évidemment, Powels et Bergier, Charroux, von Däniken, mais également des gens que vous avez publiés dans la Gazette Fortaine. Alors, quelle a été votre lecture des Martiens au Sahara ?
Alors,
D'abord, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié le livre de Jean-Loïc Lequélec, parce que bon, même n'étant pas archéologue, je me considère quand même comme un romantique, et c'est vrai que je fais partie.
Ça, on ne vous le contestera pas. Vous êtes un romantique.
Et donc, on trouve dans son livre, c'est un livre quelque part, un livre de combat. On sent que Jean-Loïc Lequélec en a assez de tout ce qui se publie, et donc c'est un livre qui nous change dans son ton d'écriture de l'espèce de consensus mou habituel. Lui, il a ses opinions et ça m'a rappelé un petit peu les publications de l'Union rationaliste à l'époque du crépuscule des magiciens quand ils combattaient Bergier. On sent que c'est un combat pour la raison et la rationalité contre l'obscurantisme. Bon, étant moi-même quelque peu obscurantiste, j'avoue que même si je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que bon, il faut d'abord s'incliner devant les faits, et là, Lequélec nous en présente un certain nombre qui sont tout à fait indiscutables. Mais bon, je conserve malgré tout, et ça c'est peut-être... Je ne sais pas, ce qui lui fait peut-être un tout petit peu défaut. Moi, je conserve une grande sympathie pour ces gens qui, à l'origine, nous ont fait rêver. C'est quand même parce que j'ai lu Robert Charroux, qui évidemment est quelqu'un qui a présenté tout un tas d'éléments bizarres dans des contextes qui sont effectivement à tendance raciste, etc. Mais moi, je conserve quand même beaucoup d'affection pour Charroux, parce que c'est grâce à lui qu'un jour, je me suis retrouvé au Pérou, dans le musée d'Ica, en train de faire une visite guidée par le docteur Cabrera. De cela, il y a une trentaine d'années, quand personne n'y allait. Bon, si je n'avais pas lu Charroux, je n'aurais pas été suffisamment intrigué pour y aller.
Alors, Éric Henriet, vous, votre première réaction vis-à-vis des Martiens au Sahara?
Livre de combat, oui, et je dirais même, je ne suis pas étonné que ça vienne d'un archéologue. Parce que finalement, au-delà du propos autour de cette table qui est l'archéologie romantique, les mystifications, en fait, c'est avant tout un livre pour défendre la démarche scientifique, faite par un scientifique qui, certes, se réfère à des charlatans, des inventeurs, mais qui laisse aussi la part, dans son étude, la part aux erreurs. Et je ne suis pas étonné, je disais, que ça vienne d'un scientifique, parce que, étant moi-même de formation de sciences dites dures, on se rend compte depuis quelques années que même dans les sciences dures, à cause de la pression à la publication qui est déjà en place depuis une vingtaine d'années, où on demande aux étudiants de publier, si possible, tous les 3, 4, 5, 6 mois, un article, et donc les études longues n'existent plus, on découpe certaines thèses en plusieurs articles, en plusieurs morceaux, on se rend compte que cette pression fait que les gens vérifient de moins en moins leurs sources, y compris, je dis même, dans les sciences dures, où on peut voir des spectres chimiques que les gens citent depuis des dizaines d'années, qui n'ont jamais été refaits. Quand on refait l'expérience, on ne trouve plus la même chose. Mais a fortiori, je pense que pour des gens des sciences, je ne sais pas si j'appellerais ça molle, mais d'archéologie, c'est-à-dire des sciences qui, pour moi, nécessitent des études vraiment longues. L'ethnographie, l'archéologie, on ne peut pas découper, pour moi, une étude tous les 3 mois. Néanmoins, ces gens-là subissent dans le milieu universitaire exactement aujourd'hui la même pression, la pression à la publication. Et donc, pour eux, ça doit être vraiment un mal-être terrible de vivre ça, et une source d'erreurs incommensurable. Et donc de voir ce combat mené par un archéologue qui concerne tous les scientifiques, en tout cas tous ceux qui s'attachent à cette formation scientifique, à cette approche, ne m'étonne pas.
Alors on va passer aux exemples maintenant, Michel Meurger. On va passer aux exemples concrets. Nos auditeurs ont besoin maintenant de savoir. On a défini le portrait de l'auteur, sa philosophie. Maintenant, allons au détail.
Il y a un concept que reprend Lequélec qui me semble tout à fait important pour comprendre au fond où on se trouve. C'est-à-dire, c'est le concept de néo-évémérisme. Alors, pour définir la position, par exemple, des avocats des visites extraterrestres à l'aube de l'humanité, ce qu'on appelle le paléocontact ou les astronautes de la préhistoire qui ont été défendus par les Denikan, Charroux et consorts. Il y a des exemples nombreux et variés. Alors, il utilise ce terme des néo-évéméristes qui étaient évémères. C'était un philosophe du 4e siècle avant notre ère qui estimait que les dieux étaient des hommes divinisés. Alors, Denikan, Charroux et leurs émules ont considéré à sa suite que les anciens dieux étaient des extraterrestres mythisés par les premiers hommes. Et moi, dans mon histoire naturelle des dragons, j'ai utilisé le même terme de néo-évéméristes pour rendre compte des positions des cryptozoologues qui traduisent les animaux fabuleux des bestiaires et légendes tribales comme des animaux non répertoriés mythisés. Vous voyez finalement le danger de ce type de démarche, parce que tout l'aspect symbolique des représentations, notamment des représentations figurées, est éliminé. On vous trouve un astronaute sur la dalle de Palenquet, alors qu'il s'agit d'un casque.
Ça, il en parle.
Il en parle, bien entendu. On trouve effectivement aussi des représentations de tricératops Triceratops en Amérique du Nord ou d'autres dinosaures, parce que finalement, on ne respecte pas le contexte, ou même on se désintéresse complètement du contexte de production, et on introduit son interprétation, finalement le document ne sert qu'à justifier des préconceptions, des postulats de départ. Alors c'est l'anti-démarche scientifique par excellence, et il est logique, pour reprendre ce que disait Eric tout à l'heure, qu'effectivement des scientifiques s'insurgent contre cette démarche, parce que finalement c'est une démarche qui souvent se donne effectivement des prétextes d'érudition, mais qui en réalité s'oppose de façon frontale à la démarche scientifique qui elle n'est jamais terminée, la démarche scientifique.
Elle est dans le doute.
Elle est dans le doute, elle est dans la remise en question régulière des thèses, et d'ailleurs on en reparlera tout à l'heure à propos des thèses de l'abbé Breuil concernant la fameuse dame blanche d'Afrique australe. Et là, en fait, quand on prend les exemples de ce livre, on se rend compte, des Martiens au Sahara, on se rend compte qu'effectivement, on comprend pourquoi tel dossier est choisi plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que je ne pense pas, effectivement, j'ai pu remarquer moi aussi, à la suite de Jean-Luc, qu'effectivement, quelquefois le ton me paraît un peu excessif. Mais je pense que le fond des choses, on ne peut qu'être d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, il est vrai qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour l'homme de la rue de se faire une opinion, étant donné le chamboulement de la préhistoire dont on parlait tout à l'heure. Et donc, à travers ces fissures, peuvent s'introduire des gens qui sont des gens avec de très mauvaises intentions. Le Kellex cite de nombreux exemples. Et je crois qu'effectivement, il y a très peu de scientifiques qui entrent dans l'arène. Ça, il faut le remarquer. On parlait tout à l'heure d'archéologie fantasque. Ben, c'est un terme de Jean-Pierre Adam, qui lui était un archéologue.
Qui
avait publié deux ouvrages de critique, d'ouvrages de combat aussi, de critique contre l'archéologie fantasque. Et on peut dire qu'à sa suite, effectivement, Jean-Luc Le Kellex engage un combat de façon assez frontale avec ces récupérations au fond des arts figurés qui aujourd'hui, il faut bien le dire, ont subi une accélération avec le mouvement créationniste. Parce que là, très souvent, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que des fois des thèses du 19e siècle ont été reprises in extenso par les négationnistes, ou alors des choses qui sont des choses qui concernent directement la préhistoire. Par exemple, regardez l'histoire de géants. Il y fait allusion aussi dans son livre. Quand on voit le nombre de justifications de l'existence des géants depuis la Renaissance.
Donc là, les géants, il faut dire, c'est les géants de la Bible.
Les géants de la Bible. Voilà. Donc finalement, ça revient effectivement régulièrement. C'est passé de l'Europe à l'Amérique du Nord avec ses découvertes de pseudo-géants au 19e siècle. Ça peut être découvert n'importe où. Et grâce à Internet, il faut bien reconnaître qu'effectivement, une petite découverte à l'autre bout de la planète peut prendre un développement que n'avaient pas effectivement ces découvertes au 19e siècle, où très souvent, on n'apprenait pas que telle gazette parlait de telle chose. Donc je crois que là, on est au centre du cyclone, on est au centre d'un immense développement contre lequel tente de s'opposer Jean-Luc Le Kellex.
Alors, Jean-Luc Rivera, prenons quelques exemples. Vous qui êtes un homme du terrain, un homme du concret, et des exemples qu'a choisi Jean-Luc Le Kellex, sur lesquels vous auriez peut-être autre chose à dire, même à revenir, on ne sait jamais.
Non, parce que, bon, bien que romantique, j'ai dit aussi que je m'inclinais devant les faits. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'en particulier, l'ouvrage de Jean-Loïc Le Kellex est dirigé vers les créationnistes de tous bords. Bon, on sait l'influence des créationnistes protestants aux États-Unis, mais on a tendance à sous-estimer l'influence des créationnistes musulmans. Hein, il y en a, on avait beaucoup parlé il y a quelques années de ce dictionnaire créationniste musulman de Haroun Yahya, dont il parle. On oublie aussi, par exemple, l'énorme influence des créationnistes hindous, ce qu'on appelle védiques, des gens comme Michael Cremo, qui se partent tous souvent du titre de docteur. Alors maintenant, il faut voir de quel doctorat s'agit-il. Et donc, par exemple, il parle beaucoup à un moment des fameuses traces de dinosaures mélangées à des traces de pas humains, apaluxie. Donc, soit les hommes ont été contemporains des dinosaures, soit l'homme tertiaire et même secondaire a existé, soit les dinosaures, ce que je trouve personnellement plus sympathique, bien entendu, ont survécu beaucoup plus longtemps après leur extinction que ce que l'on pensait. Mais peu importe, dans le cas de Paluxy où les créationnistes protestants montrent en même temps un doigt fossilisé. Alors c'est très curieux parce que seul le doigt, on n'a pas le reste, il n'y a qu'un morceau de doigt qui reste, mais passé au rayon X, parce qu'ils se veulent toujours très scientifiques, hein, ces gens-là, on s'aperçoit que ça ne tient pas debout. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le Kelec montre très bien qu'il y a peu de scientifiques qui soutiennent les thèses, ces thèses en question d'archéologie extrêmement étrange, et que chaque fois qu'on a affaire à l'un de ces scientifiques, c'est quelqu'un qui est un scientifique certes reconnu, mais pas dans le domaine sur lequel il est
en train de pontifier. C'est ce qu'il appelle le syndrome d'Einstein.
Voilà, bon, alors il y a Rémy Chauvin qui est quelqu'un qu'on aime bien, mais Rémy Chauvin, c'était un éthologue. C'est vrai que lorsqu'il vient parler des cartes de Pirée-Réis, bon, il est sorti de son domaine, par exemple.
Un amiral turc qui aurait évoqué, disons, la carte de les... de l'Amérique, du continent américain.
Du continent américain et de l'Antarctique, avant que l'Antarctique ne soit sous les glaces. Voilà. Donc, ce qui démontrait bien que c'était transmis secrètement toutes les cartes des anciens rois de la mer, la grande civilisation maritime, qui avait érigé, bien entendu, les mégalithes, cela avant la dernière glaciation.
Éric Henriet, pour terminer avec ce premier livre.
Mais je crois que Jean-Luc Le Kelec, comme on disait tout à l'heure, ne s'attaque pas aux faibles. Donc on a cité Berger. Je crois que ce qui l'énerve plus que tout sont les gens qui ont une érudition ou une connaissance déjà scientifique et qui néanmoins passent les lignes jaunes. Alors on l'a vu dans les exemples qui viennent d'être cités. Et pour moi, les créationnistes, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que le problème des créationnistes depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est que dans un certain nombre de pays, non seulement ils ont pignon sur rue, mais maintenant ils ont des thèses en université. C'est-à-dire que c'est devenu une science officielle par le régime. Et on leur donne des titres de docteurs qui sont cette fois plus des titres de docteurs charlatans, comme Jean-Luc citait, de gens qui s'appropriaient des titres qu'ils n'avaient pas. Ils les ont vraiment au sens de l'université. Donc ça, je pense que on est l'aboutissement. Je ferai juste une petite remarque parce que c'est un écrivain qui m'a toujours plu. Jean-Luc Le Kelec ne s'attaque pas au romantisme ou plutôt à l'approche romanesque de l'archéologie. Il ne s'attaque pas à Kubrick et Clark dans 2001.
Non.
Parce que typiquement, on a un très bon exemple d'un scientifique, Clark, en l'occurrence, qui sait tout à fait écrire d'une part des essais dans les domaines dans lesquels il est compétent et sur lesquels il ne fait pas de romanesque scientifique, et par ailleurs des romans dans lesquels il peut imaginer des extraterrestres venant donner quelques sciences, préscience aux singes. Il va s'attaquer à ceux qui, en permanence, maintiennent cette ambiguïté, mélangeant une approche scientifique avec quelques barjoteries dans le pire des cas, ou manipulation, ou quelques erreurs dans un cas un peu plus standard.
Très bien, on va passer maintenant au deuxième ouvrage de Jean-Luc Le Kelec, choisi pour ce soir, La Dame Blanche et l'Atlantide, mais avant cela, toujours du Tim Burton, mais cette fois Alice au Pays des Merveilles. Alors, La Dame Blanche et l'Atlantide, enquête sur un mythe archéologique, cette fois aux éditions Errant, superbe volume d'ailleurs, somptueusement illustré, en couleur, avec des plans, qui raconte quoi, Michel Meurger? Qui raconte les rêveries, les supputations, les fantasmes autour d'un dessin rupestre africain.
Un dessin rupestre d'Afrique australe, qui n'est pas une femme, mais qui l'est devenue. Et alors, l'auteur documente dans le détail la construction d'un mythe eurocentrique à partir d'une figure rupestre africaine mal interprétée. Donc un personnage masculin, il faut le dire, se voit transmué, je cite, en jeune athlète blanche en short, d'origine méditerranéenne et peut-être même minoenne.
Minoenne, voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, on suit de très près, grâce à son journal, à la correspondance, comment le pape de la préhistoire,
l'abbé Breuil.
L'abbé Breuil, avec l'aide de sa secrétaire, a réussi à transformer effectivement une figure masculine en figure féminine, et non seulement féminine, mais une espèce de nymphette chasseresse, et qui est censée être l'émissaire effectivement d'une société civilisée du pourtour de la Méditerranée, qui est venue enseigner les arts et les lettres à ces malheureux sauvages africains. Donc, bien entendu, dénonciation d'idées qui sont des idées régnante à l'époque, colonialiste, etc. Et je trouve que c'est un magnifique exemple. Nous parlions tout à l'heure des Martiens au Sahara. Au fond, c'est l'application des Martiens au Sahara, l'application de la thèse. C'est-à-dire qu'on suit de façon précise comment se construit dans le temps et dans l'espace ce mythe. Je ferai juste une petite remarque. L'abbé Breuil définit toujours cette jeune fille comme une jeune fille, effectivement, une adolescente. Et ça me paraît quand même difficile de concilier ça avec les mythes de monde perdu que cite abondamment le Kélek, où il s'agit toujours d'adultes. Ce sont des reines blanches ou des dames blanches ou des déesses blanches, mais ce sont toujours de junoniennes femmes mûres qui n'ont rien de l'androgyne fantasmée par la baie.
C'est la déesse mère.
C'est la déesse mère. C'est-à-dire que finalement, quand on voit les goûts des hommes de l'époque.
Monsieur Landresse.
Oui, voilà. Et ça ne correspond pas du tout à l'image très légère et très, très hamiltonienne, disons, que semble avoir nourri notre brave abbé. Donc j'ai l'impression que quelque chose coince à ce niveau-là dans la démonstration de Le Kélek. Ceci dit, le livre est admirable, tant sur le plan de la démonstration que sur le plan des illustrations. Et c'est le genre de livre qu'on sort et qu'on ressort. On passe son temps dessus. C'est quelque chose de remarquable.
Alors, Jean-Luc Rivera, quelques mots sur ce livre. Alors, donc, on part d'un dessin, d'une œuvre rupestre en Namibie, donc Afrique de l'Ouest. Et puis, Le Kélek montre les ramifications qui se crée dans le roman, dans le cinéma, et à la limite, à l'intérieur de quel contexte s'insèrent ces analyses largement fantasmatiques de l'abbé Breuil et de sa secrétaire.
Voilà, ça s'insère en fait, et ça il le démontre très bien, dans tout un courant de littérature qui est celui qu'on appelle la littérature des mondes perdus ou des races perdues, où effectivement des gens comme, le plus célèbre c'est naturellement Rider Haggard avec les
Conan
aventures
Doyle.
D'Alan Quatermain, mais c'est aussi Conan Doyle. Ce sont où, là, on trouve un peu partout des Égyptiens survivants. Et l'Afrique est la terre d'élection de toutes les survivances possibles, phéniciennes, romaines, etc. Une série des Tarzans qu'il cite, évidemment, en est la meilleure illustration. Donc, cette espèce d'Afrique mythifiée chez les romanciers se retrouve chez aussi un certain nombre de scientifiques à travers des interprétations qui, effectivement, en même temps, justifient la colonisation. S'il y a des ruines de civilisations disparues grandioses, comme par exemple au Grand Zimbabwe, bien entendu, ce ne sont pas ces sauvages cannibales qui ont pu les construire, c'est parce qu'ils ont été civilisés auparavant par des grands instructeurs blancs ou légèrement bronzé pour les Égyptiens, mais c'est la Méditerranée, donc ça va, c'est quand même le berceau de la civilisation.
Les Égyptiens, c'est bon.
Donc, les Égyptiens, on les récupère. Ouais. Voilà, et ça, c'est vraiment la force de la démonstration de son livre.
Michel Merver.
Moi, ce que j'ai regretté, c'est que Jean-Luc Le Kélek n'ait pas plus développé, au fond, l'image de base des fantasmes de l'abbé Breuil. C'est-à-dire cette juvénile enfant armée d'un arc que définit l'abbé, il dit, c'est Diane.
Parce qu'il faut... Je me permets d'intervenir, Michel Berger. L'abbé Breuil a eu un coup de foudre pour la Dame Blanche de
Namibie. Pendant 16 ans, il a rêvé sur elle.
Il dormait au pied du pan de roche où elle était inscrite.
Il y a une véritable obsession, une marche, une quête vers la Dame Blanche. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette image, au fond, qu'est-ce que c'est ? Ça correspond... Cette Dame Blanche correspond à Diane, d'après lui, la juvénile déesse de la chasse de l'Antiquité. Et moi, j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que, comme on sait, l'abbé Breuil était l'un des principaux avocats de la thèse expliquant les peintures des cavernes par la magie de la chasse. Donc, Jean-Luc Le Kélek aurait peut-être dû développer beaucoup plus ce rapport entre cette Dame Blanche, la chasse et les obsessions cinégétiques de l'abbé. C'est-à-dire que finalement, quelque part, j'ai l'impression que c'est une chasse à la Dame Blanche, une chasse peut-être spirituelle, mais quelque part...
Une chasse charnelle.
C'est l'impression que c'est très charnel et qu'en tout cas, ça s'éloigne quand même pas mal de cette idée des déesses mères, des reines blanches. Et quelque part, il y avait un filon à suivre. Peut-être que les gens qui, dans le sillage de le Kélek, étudieront ces représentations, développeront plus le côté chasse, le côté dianesque, le côté finalement, moi je dirais, beaucoup plus juvénile, parce que c'est quelque chose à étudier. Je crois qu'il y a déjà eu des travaux, d'ailleurs, sur les reines et dames blanches des romans de Monde perdu, mais il n'y en a pas tellement sur cette figure de la déesse de la chasse et de la jeune fille. Ça me paraît quelque chose de quand même relativement précis, et quand on voit qui a développé ces fantasmes, c'est d'autant plus intéressant.
Jean-Loïc Le Kélek, La Dame Blanche et l'Atlantide, enquête sur un mythe archéologique, donc aux éditions Errant, c'est un livre tout à fait somptueux pour les amateurs d'archéologie fantastique, de Monde perdu, de cinéma colonial et de rêverie atlante, et autres fans des mines d'Ophir. On continue, messieurs, avec cette fois-ci les chroniques, et vous n'en voudrez pas, Eric Henrier, si je donne d'abord la parole à Jean-Luc Rivera, souvent martyr de l'horloge, qui va pouvoir avoir du temps pour parler. Jean-Luc, c'est à vous.
Merci François, je vais en profiter pour une fois pour pouvoir parler de quelques-uns de mes coups de cœur récents au niveau lecture. Et je vais commencer par un ouvrage qui est un roman uchronique de Laurent Pougeois qui s'appelle L'Ange Blond. C'est sorti chez Mnemos. Et il s'agit du premier roman, donc d'un nouvel auteur qui a fait ça à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il a envoyé son manuscrit à des éditeurs. Et fort heureusement, les éditions Mnemos l'ont retenu et l'ont
publié. Leur courrier.
Voilà, lisent leur courrier et lisent les manuscrits qu'on leur envoie. Donc, dans ce cas précis, cette uchronie, c'est une sorte, je dirais, de techno-thriller qui se déroule dans l'Empire des États-Unis d'Europe en 2008, au moment de la célébration du bicentenaire de l'invasion de la Grande-Bretagne par la Manche. Hein, Napoléon a envahi la Manche. Et ça a été couplé en même temps au soulèvement écossais de la Old Alliance, qui avait été ranimé par Talleyrand à l'époque. Et donc, ça a vu l'effondrement de la monarchie britannique, qui, en 2008, est toujours réfugiée dans ses lointaines colonies canadiennes.
Un point de divergence sympathique.
Voilà un point de divergence tout à fait sympathique. Et ça nous donne un monde qui a évolué de manière fort différente de la nôtre, puisqu'il y a eu un empereur éclairé, bien sûr, puisque c'était un Bonaparte. Et si j'ose dire, donc je sais que je vais en faire bondir certains, et donc cet empereur éclairé au début du XXe siècle a interdit l'utilisation des énergies fossiles. Et il a privilégié à la place les développements biotechnologiques. Donc ça donne des technologies qui sont plus ou moins analogues aux nôtres ou plus avancées. Il y a déjà des bases lunaires et martiennes. Et on suit donc l'enquête d'Aurore Lefebvre, qui est une ex-légionnaire et qui de la Légion impériale, et qui a été recrutée par l'Agence centrale impériale pour déjouer une conspiration de tout un tas d'opposants hétéroclites, dont le chef semble être le petit-fils d'un médiocre peintre autrichien raciste des années 20, mais qui n'a pas bien réussi, s'est contenté
de qui peut-il s'agir?
Voilà, mais lui s'est contenté de continuer à barbouiller. Alors, c'est une action qui est très prenante dans un monde qui est tout à fait surprenant et très bien bâti. En plus de ça, l'auteur nous le décrit à petites touches grâce à des citations de l'Encyclopédie impériale pour tous. Donc comme ça, on comprend tout. Et vraiment, c'est une très belle réussite que ce roman, qui a d'ailleurs reçu le premier prix des Futuriales. C'est un nouveau prix
un nouveau festival, non ?
D'un nouveau festival et qui récompense un premier roman.
Festival à quel endroit, vous qui êtes ?
À Aulnay-sous-Bois. Et c'était il y a quelques jours.
Très bien. Premier ouvrage de ce soir.
Voilà. Donc, magnifique. Alors, je ne résiste pas non plus au plaisir de signaler que chez Rivière Blanche, on vient de rééditer Jean Diable de Paul Féval dans une édition qui a été annotée en plus par le grand écrivain anglais Brian Stableford. Et je tiens à souligner que c'est la première fois depuis 1864 que ressortait ce roman de Féval, hein, dont on connaît pourtant les habits noirs, etc. Et Jean Diable, qui est un roman imposant, hein, massif.
500-600 pages
voilà,
facilement.
Voilà, 600 pages. C'est un roman qui est important dans les littératures qui nous intéressent, parce que c'est le premier roman à inclure un détective en tant que tel, et qui utilise une méthode d'analyse et d'enquête scientifique. Alors ça se déroule, on reste toujours au temps de Bonaparte, ça se déroule en 1817, et donc il s'agit de démasquer un tueur en série et d'empêcher un complot politique qui pourrait changer le monde. Donc c'est quelque chose de très moderne, on y trouve même un peu d'anticipation, puisque Jean Diable utilise un sous-marin. Donc, une réédition intéressante
pour
tous
les gens. Et on peut d'ailleurs remercier et saluer le travail de Stableford d'avoir procuré cette édition et cette annotation.
C'est absolument remarquable. Alors, je tiens à souligner aussi une autre réédition dans le genre Beau Travail. C'est dans la collection des trésors de la science-fiction qui sont publiés chez Bragelonne sous la houlette très éclairée de Laurent Genefort.
Alors là aussi, saluons le travail de Laurent Genefort qui nous a donné des très belles éditions de Jack Spitz notamment et de toute une série d'auteurs classiques, mais donc, dont il donne une édition extrêmement annotée et fouillée.
De Sprague de Camp aussi, entre autres, absolument. Combattant de l'archéologie réaliste. Et donc là, ils viennent nous donner un gros volume qui s'appelle Prisonnier des étoiles. C'est la réédition d'un certain nombre de romans d'Eric Frank Russell. Et Eric Frank Russell, c'est un écrivain de science-fiction anglais un peu oublié aujourd'hui, sauf naturellement des Fortéens, puisque Eric Frank Russell a fait partie de la Fortean Society, était le représentant de celle-ci pour la Grande-Bretagne. Et dans beaucoup de ses romans, on retrouve des éléments fortéens. C'est d'ailleurs, Francis Valéry a fait une très jolie postface sur ces éléments fortéens dans le roman. Et là, donc, dans cet ouvrage, on présente quatre des meilleurs romans de Russell. C'est Gap, Plus X, La Grande Explosion et ce qui est pour moi le meilleur roman de Russell, Guerre aux Invisibles. Donc, c'est excellent. Et en plus, c'est écrit avec beaucoup d'humour. Donc, c'est absolument
et c'est passionnant. Chez Bragelonne.
Et c'est chez Bragelonne. D'ailleurs,
on peut féliciter et noter que Bragelonne, qui évidemment fait beaucoup, beaucoup pour la fantasy et qui gagne quand même pas mal d'argent avec la fantasy, réinvestit une partie de ses gains dans la réédition de classiques du fantastique, du classique de la science-fiction française, et continue de faire vivre le filon fantastique dans l'édition française, qui est quand même assez faiblement représenté aujourd'hui. Ça n'a pas été tout le temps le cas, mais depuis quelques années, c'est le cas. Donc bravo et merci Bragelonne.
Oui, et d'ailleurs, je continue parce que justement, je vais parler maintenant d'une autre publication aussi de Bragelonne, qui fait partie de ces publications dites de bitlit et qui leur font gagner beaucoup
de
d'argent.
Bitlit, alors définition là, bing, note en bas de page.
La bitlit, c'est la littérature à l'origine de vampires qu'on voit se développer depuis les Twilight et autres, et par extension tout ce qui est du fantastique avec des succubes, des démons, etc. Et là, l'édition de poche de Bragelonne qui s'appelle Milady, sortent de Jim Butcher les dossiers de Dresden. Et alors Dresden, c'est un magicien de son état. C'est le seul d'ailleurs qui figure dans les pages jaunes de Chicago. Et donc c'est un Chicago dans lequel magiciens et vampires, fées, loups-garous, démons et mafiosi se livrent à des combats sans fin. Et où notre héros, qui est un vrai magicien doté de pouvoir, hein, c'est pas un prestidigitateur, c'est un magicien, il a son bâton, etc. Il est doué de pouvoir et il se retrouve à aider la police de Chicago à mener des enquêtes sur des meurtres qui sont tous plus étranges et bizarres les uns que les autres. Et ça l'entraîne dans des intrigues absolument échevelées, toujours racontées avec beaucoup d'humour. Et donc ça, c'est de ce que j'appellerais l'excellente bitlit, celle qui remplit bien son office. Ça délasse le lecteur, ça lui procure une évasion qui est bienvenue aujourd'hui. Il y a déjà 4 tomes.
Pourquoi aujourd'hui?
Oh, comme ça.
On aurait besoin d'évasion, on le privera.
Oui. Et en plus de ça, en bonus, il y a aussi une BD qui est sortie, une BD très sympathique, adaptant le premier volume des dossiers de Dresden. Donc c'est paru chez Milady Graphics, donc ça c'est de la littérature sympathique, pour bien s'amuser. Et alors je termine parce que je vois Éric Henrier.
Cerise sur le gâteau.
La cerise sur le gâteau, alors là ça n'est plus un livre, mais c'est un film. Ah. Je tenais à signaler que Backfilm qui nous régale...
Que serions-nous sans Backfilm?
Voilà, que serions-nous sans Backfilm qui nous régale un certain nombre de chefs-d'œuvre du cinéma, vient de sortir ce que je considère comme le chef-d'œuvre absolu du nanar, à savoir le film Robot Monster, film qui a été commis en 1953 par Phil Tucker. Et j'engage tous les auditeurs...
J'appelle solennellement Jean-Luc Rivera
à voir de leurs propres yeux le robot en costume de gorille avec un casque de scaphandrier ou la machine à détruire le monde qui produit des bulles de savon. Il n'y a que s'ils le voient qu'ils peuvent croire qu'on a pu produire un tel film. Donc c'est un film qui en plus est bien servi par des acteurs qui ont été fort justement oubliés, un scénario qui est totalement indigent. Tout est mauvais, il n'y a rien à sauver, ça donne un chef-d'œuvre de une
courez-y.
Heure.
Courez-y. Voilà, Jean-Luc Rivera vient d'avoir tout le temps qu'il a souhaité pour faire ses chroniques. Il se dit, mais ai-je rêvé? Il va se le dire jusqu'à la fin de l'émission. Éric Henrier, maintenant la parole est à vous d'autres chroniques.
Jean-Luc m'a facilité le travail, il a traité un certain nombre d'uchronies ou d'apparentés. Juste une petite remarque, pour moi le début de la littérature beatlitz, c'est Entretien avec un vampire, c'est pas Twilight. Alors puisqu'on en est dans les filons justement qui sont exploités, la BD et Delcourt en tête exploite beaucoup de filons depuis le décalogue. Hein. C'est le principe, on garde un scénariste et on change de dessinateur à chaque fois. Donc il lance un blockbuster, hein, comme on dit, anglicisme bien connu, utilisé dans les industries pour parler de produits qui rapportent 1 milliard d'euros ou plus par an. Et donc il lance une nouvelle série blockbuster, Jour J. Alors on les voit partout, présentoir, grosse presse. Le principe est très simple, c'est censé être de l'uchronie historique pure, donc autrement dit, pas de loup-garou, pas de fantaisie. Le premier tome nous a laissé un sentiment vague, donc on va passer vite, hein, une espèce d'utopie lunaire absolument incrédible, même si Péco, qui a déjà beaucoup sévi dans ce domaine, et là je rejoindrai un peu le Kélec, se targue souvent d'une bibliographie en fin d'ouvrage pour nous faire croire qu'elle a des références historiques. Je doute beaucoup du développement des Russes sur la Lune aussi vite qu'il le dit, d'aventure c'est eux qui avaient pris Penemun 2. Jour J, le tome 2 par contre est nettement meilleur, puisque dans cette uchronie, le débarquement a échoué et donc les Américains ont plutôt progressé en France par le sud. Et Paris se trouve être Berlin, c'est-à-dire coupé en deux avec le mur, et on se trouve en 51 sous le fond d'une enquête policière avec beaucoup de clins d'œil. Péco est spécialiste du clin d'œil. Il a une autre série, Le Grand Jeu, où il fait des clins d'œil à Bergier, quelque chose qui ne plairait pas à Le Kélec. Là, on a des clins d'œil à James Bond, à John Le Carré, à certains de nos meilleurs tueurs en série historique. Donc, on se régale.
C'est chez Delcourt.
Néanmoins, c'est de la BD au kilomètre. En revanche, chez Aquileos, petit éditeur aussi courageux que Bragelonne, hein, qui n'hésite pas, oui, gros éditeur, mais je dirais qui n'hésite pas à de temps en temps investir sur de jeunes auteurs. Ils ont publié très récemment de Brujas et Toulouat, Bloc 109, une BD très épaisse, avec des couleurs. Une colorisation, je dirais pas noir et blanc, mais presque très sombre. Le Reich a détruit l'Occident, et nous sommes en 1953, mais le Reich agonise, parce que la guerre continue à l'Est, et sous les coups de l'armée rouge, le Reich agonise. Il va tenter de jouer une dernière carte, celle de la guerre bactériologique. Mais ce qui est intéressant dans cette uchronie, outre le dessin somptueux, l'approche originale des auteurs, et puis là aussi quelques clins d'œil fort à propos, c'est la chute, que je ne dévoilerai pas. Pour une fois, on a une vision très dure du Reich, bien sûr, très critique, mais un minage de celui-ci de l'intérieur très original. Donc je laisse à tous les amateurs de bonnes BD le soin de le découvrir. On va essayer de respecter un petit peu le principe de l'émission et de rester dans l'uchronie un peu pure avant de dériver vers le romantisme.
L'uchronie impure.
Voilà. Donc je dirais Pierre Bordage pour adolescents, mais aussi pour adultes. La collection Uchronie chez Flammarion, hein, dirigée par Alain Grousset, dont on a déjà parlé, sort le tome 2 de son Uchronie, donc Ceux qui seront. Le tome 2 s'intitule Ceux qui rêvent. Alors je rappelle que le point de divergence est assez original, puisqu'il se situe à l'époque de Jules Ferry. Les orléanistes interdisent l'école au tiers-état. Et donc, c'est avant tout, bien entendu, de la part de Pierre Bordage, un manifeste pour l'école libre et populaire. Il y a dans ce roman de Bordage, comme toujours avec lui, de grandes scènes visuelles, comme on les aime, avec des décors somptueux. Donc, pour tous ceux qui aiment les textes originaux et qui aiment Bordage, foncez, Ceux qui rêvent chez Flammarion. Joan Elliott, L'Ordre Noir. Joan Elliott, quelqu'un que nous connaissons aussi beaucoup ici. Alors là, on commence à dériver. Hein. On n'est plus dans l'histoire. Là on pourrait presque rentrer dans un chapitre de
Kélec. L'impureté augmente.
Beaucoup d'impureté dans L'Ordre Noir, puisque c'est un mélange, dirons-nous, de thriller, bien sûr, d'histoires secrètes, de mondes parallèles, de conspirations, de grands complots, de voyageurs dans le temps essayant de rétablir l'histoire. Et puis, bien sûr, on y trouve les nazis, on y trouve un peu d'archéologie aussi impure. Un mélange de tout, mais la mayonnaise prend. Et puis, bon, Joan Elliott n'a pas la prétention de faire un essai scientifique, donc on lui pardonne. C'est un très bon roman.
C'est au fleuve noir.
C'est au fleuve noir. Alors, je vais me faire pardonner, et je ne le fais pas exprès, chez Rivière Blanche, puisqu'un jour, j'avais dit du mal, si ma mémoire est bonne, à cette antenne d'une réédition de Madame Atomos, mais Rivière Blanche, qui est quand même une maison d'édition tout à fait sérieuse, qui nous offre, et Jean-Luc Rivière vient de le mentionner, de très bons romans. Le Cavalier de Taurus de Nicolas Clouzot est un chef-d'œuvre.
Carrément.
Oui, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. C'est un livre qui se lit d'une traite. Nicolas Clouzot, d'ailleurs, n'est pas un débutant. Hein. Il a déjà produit un certain nombre de romans intéressants. Mais là, à mon avis, il atteint un sommet dans son œuvre. Ça se passe en Anatolie, au XIe siècle. C'est bien sûr une uchronie impure, puisqu'il y a, de la fantaisie. Mais au sens de l'écriture, au sens du souffle épique, je ne peux que conseiller ce roman chez Rivière Blanche. Plus rapidement, chez Rivière Blanche, Nova Roma. Un empire éternel romain, mais cette fois, il a conquis même la galaxie. Et donc, finalement, la boucle est bouclée. Hein. Là où Star Wars ou un certain nombre de space opéra faisaient référence à Rome, Mathieu Baumier, qui avait déjà sévi dans l'Uchronie il y a quelque temps, et Egwene Garnier-Duguit, eux, bouclent la boucle et amènent Rome naturellement au space opéra. Et puis, très rapidement, chez Rivière Blanche, mais François Joyer, ça ne vous déplaira pas, le quatrième tome des Compagnons de l'Ombre, avec énormément de clins d'œil à la lecture ancienne,
bon.
Et un excellent texte de Xavier Mauméjean. Je terminerai, j'espère que vous m'en laissez encore un tout petit peu le temps.
Largement le temps.
Bon, tout va
ce
bien.
Ce soir, le temps est aboli, le temps n'existe plus.
Eh bien, alors, tant
les
mieux.
Les chroniques dureront éternellement.
Je vais citer un comique français qui, lorsqu'on le voit, a toute l'allure d'un comique américain qui s'appelle VHB pour Vampire Hunter Brigade, mais qui, je rassure, est fait par une association qui s'appelle l'association Philactère, une association qui regroupe un certain nombre d'auteurs. Et ce comique est signé Le Corste. C'est une uchronie. Je dirais un peu comme la littérature que vous citiez, Jean-Luc Rivière, il y a un instant, puisque le point de divergence, c'est que dans les années 30, pendant une certaine nuit à Berlin, le peuple de l'ombre a décidé de sortir de l'ombre. Donc les loups-garous, les vampires, les lycanthropes ont décidé de sortir de leurs antres.
L'armée des ombres n'est pas tout à fait celle de Kessel.
Voilà, en 33, il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas,
hein.
Absolument. Et l'histoire se passe dans les années 2050, dans un monde un petit peu à la manière de Je suis une légende, hein, où ces braves êtres ont conquis la planète, sauf la Nouvelle-Orléans qui résiste. Tel le village gaulois. Et je vous le conseille, c'est chez Philactère. Donc là, il faut passer par Internet parce que, bien sûr, Philactère a une distribution d'associations. Et enfin, pour terminer, et comme ça, on terminera par du sérieux, deux mangas rapidement que j'avais déjà, deux séries de mangas. L'une se termine en France, toutes les deux par Keiji Kawaguchi. L'une se termine, c'est Spirit of the Sun, que j'avais déjà mentionné, l'idée d'un énorme tremblement de terre en 2001 qui coupe le Japon. Celui-ci se voit occupé moitié par la Chine, moitié par les États-Unis, au nom de sa reconstruction, mais en réalité au nom d'une nouvelle guerre froide. Saluons le courage des éditions Tonkam qui sont allés au bout des 17 volumes de ce manga pour adultes, disons, hein, puisque la thématique est loin d'un Naruto ou d'un Dragon Ball Z.
Captain Conan.
Et toujours du même auteur, cette fois chez Kana, qui sort régulièrement des mangas dans les domaines qui nous intéressent fort à propos. Signalons la série Zipang que j'ai déjà mentionné plusieurs fois.
Ah
bah,
chaque fois que vous êtes passé à cette
Absolument.
Émission, vous avez chroniqué un volume
mais
de
là,
Zipang,
là,
il y en a
j'ai...
27 maintenant.
Oui, mais j'ai une information importante. La série est terminée au Japon par le 43e volume, donc on pense que Kana va aller au bout en France. Et ce qui est intéressant pour ceux qui ont feuilleté le volume en japonais, sans forcément le comprendre, c'est qu'il semble bien que l'auteur va mettre un point final à son Uchronie dans le Pacifique tout à fait historique et assez surprenante. Donc on a hâte de lire la fin en France. Enfin, et l'actualité, on le disait en début d'émission, François s'y prête. 1940, et si la France avait continué la guerre, par Jacques Sapir et consorts, Franck Stora, Loïc Mahé et beaucoup de gens derrière. Là, on a des gens sérieux, hein. On a des gens des hautes études en sciences sociales, on a des spécialistes militaires. Ce livre qui a une grosse actualité en ce moment, je dirais pour l'anecdote, parce que je pense qu'on ne l'a pas assez mentionné, que en fait, ce livre n'est qu'un aboutissement. Ça fait déjà presque 5 ou 6 ans que sur Internet, il y a un projet animé par ces mêmes personnes qui s'appelle Fantasque Timeline, dans lequel ils développent au jour le jour une uchronie partant de 1940, très pointilleuse, très militaire, très documentée, une uchronie de fous, de passionnés, mais qui tombe bien en ce mois de juin 2010.
Merci Éric Aurier, merci Jean-Luc Rivière. Voyez, ce soir, toute la liberté était là pour vous exprimer et chroniquer. Je rappelle les deux ouvrages évoqués ce soir. Jean-Loïc Lequellec, La Dame Blanche et l'Atlantique, enquête, et l'Atlantide, pardon, enquête sur un mythe archéologique aux éditions Errance. Et du même Jean-Loïc Lequellec, Des Martiens au Sahara, chronique d'archéologie romantique, c'est chez Actes Sud Errance. Et tous les ouvrages qui ont été évoqués par Jean-Luc Rivère et Éric Henriet seront disponibles en liste sur notre site. Toute l'équipe de Mauvais Gens, Brigitte Mazire, Cécile Braque, Claire-Martin Dugard, Éric Henriet, Jean-Luc Rivera, Michel Meurger et François Angeli, vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission DVD autour de Max Ophüls, Célio Petri et Claude Chabrol. Bonsoir à tous.